Eric Maltet, bonjour. Donc, vous êtes le dessinateur de ce Aéroshock, troisième tome qui vient de sortir, des fantômes de Nightgrave, qui est apparu en 2014. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez déjà décidé, avec votre scénariste Stéphane Coleman, de partir sur trois tomes? Et est-ce qu'il y avait déjà ces 300 pages qui sont là, dont on parle?
Oui, il y avait 300 pages. Bonjour d'abord. Oui, il y avait 300 pages. Et d'ailleurs, on n'est pas arrivé à 300 pages parce que le format des albums ne le permettait pas. Et il y a même des morceaux de l'histoire qui ont été supprimés, enfin des épisodes moins importants qui ont été supprimés parce que l'histoire faisait à l'aise 300 pages. Oui.
Mais le succès quand même du premier, donc Cognac Angoulême, a finalement permis ou c'était déjà décidé d'avance?
Ah non, c'était permis. Disons que à l'époque du premier album, l'éditeur nous avait demandé d'essayer de mettre le récit en 200 pages pour qu'on puisse le tenir dans deux albums. Et puis nous avons commencé le deuxième album en partant de l'idée qu'on allait faire 200 pages et non pas 300 pages. Et puis à un moment, j'ai bien vu que Stéphane avait des problèmes pour scénariser, que ça n'allait pas aller. Donc j'ai contacté l'éditeur en lui disant, écoutez, à l'origine c'était 300 pages, c'est pas 200 pages, il faut qu'on revienne à l'idée d'origine. Et l'éditeur nous a fait, écoutez, oui, il n'y a pas de problème, on va faire en trois albums. Il faut dire que les éditeurs n'aiment pas les histoires en trois albums, parce qu'en général, ce qui se passe au niveau commercial, les gens achètent le premier album, ils voient que c'est en trois albums, ils n'achètent pas le deuxième, ils attendent que le troisième sorte avant d'acheter le deuxième. Donc l'éditeur se retrouve avec le deuxième album sur les bras, par palette entière, et ne sait pas quoi en faire, quoi. Et en fait, ça a tellement bien marché que déjà au deuxième tome, il savait qu'il n'y aurait aucun problème pour écouler une bonne quantité d'albums et qu'il n'en aurait pas sur les bras. Et c'est là qu'ils nous ont dit, ok, ça va, on va à trois tomes et on garde l'idée originale, ce qui est bien parce que à 200 pages, on n'y arrivait pas, quoi.
Est-ce qu'on peut parler de expression à la mode, de spin-off de Tiff et Tondu?
C'est... Oui, si on veut, quoique Tiff et Tondu n'apparaissent pas vraiment dans l'histoire. Ben bon, je ne voudrais pas faire de spoiler, mais...
non, il vaut mieux pas.
C'est pas un spoiler, non, c'est un personnage de...
À part entière.
À part entière, ouais. dont on raconte la naissance, en fait, à proprement parler, et dans la réalité, et dans sa création,
Son évolution.
Son évolution, la manière dont il devient un truand, en fait. Quoi.
C'est assez surprenant. Comment expliquez-vous l'attrait du public pour les méchants par rapport aux gentils héros qui, finalement, sont plus complexes, ces méchants, non?
Je pense qu'il y a toujours eu une attraction pour
Dark Vador, Fantomas.
Pour les méchants, de toute façon. Et je veux dire, dans l'heure actuelle, qui est dans l'époque actuelle, qui est quand même très polissée, très lisse, sortir un personnage un petit peu méchant, etc., je veux dire, ça ne pouvait que faire plaire aux gens, je pense. Hein. Mais bon, je crois qu'il y a une véritable attraction pour ça. C'est toujours, comment dire, s'il n'y a que du bien, on s'embête. S'il n'y a que du mal, c'est horrible. Donc, il faut toujours que les Américains ont très bien compris ça dans leurs films, qui sont toujours très binaires, où il y a toujours le bien contre le mal, le blanc contre le noir, etc., etc. Il faut toujours que, pour pouvoir profiter d'une chose, il faut toujours qu'il y ait son opposé à côté, ou une nuance en tout cas de cette chose-là, pour qu'on puisse en apprécier la saveur, quoi.
Mais c'est vrai que votre personnage de choc, il faudrait presque un psy à côté de soi quand on lit les tomes pour expliquer cette complexité qui est quand même assez surprenante. Hein.
On détricote quand même assez bien le personnage. Hein. on arrive quand même bien à montrer un petit peu pourquoi et comment on en arrive à l'enfance presque heureuse d'un petit garçon à être un terrible criminel, chef de gang international. Il y a encore plein de zones d'ombre, bien entendu, mais disons que ça va, on peut se donner une idée de pourquoi, d'où sont ces frustrations, ces problèmes psychologiques. On peut comprendre d'où ils viennent, quoi.
Alors, est-ce que c'est la BD qui a changé? Est-ce que c'est le public qui a mûri et qui est devenu finalement plus adulte?
Alors là, de toute façon, il y a un postulat que nous avons pris au départ de faire une bande dessinée plus adulte. Donc il existe toujours une bande dessinée pour enfants qui reste quand même toujours très bienveillante et qui évite d'être trop perturbante. Nous, notre postulat, c'est de faire une bande dessinée ado-adulte. Donc on est déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive, plus dans le schéma classique d'une bande dessinée Spirou, malgré que ça soit passé dans Spirou. Et même de toute façon, cela dit, l'époque actuelle est assez particulière. Hein. Il y a de la bande dessinée pour enfants qui se veut très, très bienveillante et presque gnangnang, je veux dire, très rose, très acidulée et tout. Et puis il y a une bande dessinée pour enfants qui est beaucoup plus percutante. Hein. Je veux dire, on vit une époque où on peut se permettre quand même des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre il y a 30 ou 40 ans. Quoi. C'est évident. Il y a 30 ou 40 ans, je parle même plus que 30 ou 40 ans, mais pensons à Franquin, par exemple, qui à une époque avait retiré les revolvers des mains de ses personnages. Et on voyait les personnages courir avec le doigt tendu. Hein, c'est une époque où la censure frappait. On peut faire beaucoup plus de choses maintenant. Beaucoup, beaucoup plus de choses.
Alors, le personnage de Choc est apparu en 1955. Ouais. Donc chez votre père Will et avec Maurice Rosy, puis il a disparu et puis il est revenu. Votre père, à la limite, vous l'a, comme on dit, un petit peu protégé pour une sorte de passation de pouvoir. Alors pour le commun des mortels, comment hérite-t-on d'un personnage comme ça? Comment un dessinateur peut-il se dire je me réserve les droits pour mon fils?
Mais c'est-à-dire que le personnage, c'est une création de lui et de Maurice Rosy. Mmh. Hein. En fait, mon père, en 1948, a repris des mains de Diner. Le personnage était fait tendu. Le personnage était fait tendu qui avait déjà été vendu précédemment, auparavant aux éditions Dupuis. Donc, en fait, mon père était le dessinateur attitré de Tiffé Tondu qui appartenait aux éditions Dupuis. Bon, d'un point de vue légal, je vais faire court, tous les personnages annexes qui ont été créés par mon père lui appartenaient, dont Monsieur Choc. Et en fait, quand mon père a décidé d'arrêter de faire Tiffé Tondu, il a dit, ben écoute Eric, je rends Tiffé Tondu aux éditions Dupuis, ne le fais jamais, parce que bon, lui, ça avait été sa vie, et sur la fin, ça l'embêtait vraiment de faire Tiffé Tondu. Et il m'a dit, mais par contre, Choc, c'est un personnage qui a de l'avenir, il y a moyen de faire quelque chose avec. Et moi, j'ai fait oui, comme ça, un petit peu innocemment. Je me souviens très bien, on était dans la cuisine chez mes parents, avec ma maman. Et j'ai fait oui. J'étais un petit peu surpris de ce qu'il me disait. Mais voilà, ça s'est gravé quelque part dans ma tête. Et puis, les années ont passé. Il y a eu quelques projets foireux proposés par diverses personnes de show qui n'étaient vraiment pas terribles, qui étaient complètement à côté de la plaque, on va dire. Et puis, un jour, je me suis dit, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, mais presque 20 ans après que mon père lui m'ait dit ça, je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Et il y a moyen d'en faire quelque chose, mais il faut faire un truc avec le personnage, seul, sans faire valoir, il faut que tout tourne autour de lui. Quoi. Donc c'est quand même un défi, un challenge, de faire une histoire qui tourne uniquement autour d'un méchant. Et en gros, j'en ai parlé à mon ami Stéphane Coleman, qui a relevé le défi tout de suite. Et en gros, il a réfléchi, oh, je ne saurais plus dire exactement combien de temps, mais pas tellement longtemps, je crois quelques mois. Et après quelques mois, il m'a dit, j'ai une idée. Et il m'a donné la ligne directrice de ce que seraient les aventures de Choc, c'est-à-dire un canevas, quoi. On en a parlé encore. Il a développé quelques passages de l'histoire. Et puis... moi, en gros, j'ai terminé ce que j'avais à terminer, j'avais des contrats ailleurs. Et le jour où j'ai terminé, j'ai dit à Stéphane, ok, ça va, on s'y met. J'étais à Liège, et on a commencé à crobarder, à discuter. Et puis voilà. Le jour où j'ai trouvé à quoi devait ressembler Choc, il y avait quelques pages découpées, je les ai dessinées. On est allé voir José-Louis Boquet chez Dupuis, qui a adoré. Puis, oups, ça a commencé.
C'est parti. Ouais. Belle aventure. Et en fait, finalement, Stéphane, qui est le scénariste, vous êtes son premier lecteur, non?
Ah, bien entendu, oui. On est... Ah, peut-être que sa femme aussi, hein, parce que je... Guylaine, la femme de Stéphane, a un avis très pertinent sur le travail de Stéphane. Et je sais qu'ils discutent beaucoup ensemble. Sa femme est quelqu'un de très cultivé en plus. Donc, toute la partie historique, ça ne m'étonnerait pas que quelque part peut-être pas son nez dedans, mais qu'elle ait apporté peut-être son édifice, sa pierre à l'édifice, on va dire ça. De toute façon, elle était ma coloriste pendant un album et demi aussi. Hein. Mm-hmm. Donc, une excellente coloriste, Guylaine.
Heureusement qu'il y a Internet, finalement, parce que vous qui êtes dans le sud de l'Espagne et lui toujours en Belgique, ça n'a pas toujours été évident, quand même.
Mais j'ai déjà travaillé comme ça avant. Hein. Mmh. Donc j'ai habité en Espagne avant Internet, mais effectivement, les choses allaient plus lentement. C'est-à-dire que là, bon, ben, les pages partaient par la poste, hein, les scénarios arrivaient par la poste aussi. Bon, le fax est arrivé assez rapidement, quoi, à manière de rien. Donc j'ai eu un fax dans les années... au début des années 90, quoi, là, j'avais déjà un fax, donc je savais déjà mon scénario comme ça par là. Mais l'Internet c'est fabuleux. Là, à la place d'envoyer des pages, des colis qui pesaient 10 kilos, dont on avait toujours peur qu'ils n'arrivent pas en plus.
Bien sûr.
Parce qu'ils représentaient des mois de travail parfois. Et maintenant où je scanne tout est dessiné en digital et tout part directement via Internet, ça, c'est génial, quoi.
Alors vous êtes ce qu'on appelle un dessinateur réaliste. Ce réalisme, ça demande énormément de recherche quand même. Hein. Donc, surtout ici, on passe deux guerres, 50 ans en revue, ça demande un sacré travail. Non ?
Oui, mais alors là, vive Internet, justement. Ouais. À une époque, j'aurais été... je l'aurais très bien fait aussi. Mais j'aurais été dans les bibliothèques. J'avais déjà travaillé, hein, j'avais déjà fait un premier album qui s'appelait Monogym, sur un scénario auquel avait participé Stéphane, d'ailleurs. Qui se passait dans les années 50 et j'avais été dans les bouquineries chercher des magazines des années 50 etc. pour le mobilier, jusque dans le moindre détail. On aime bien être documenté, ça prenait beaucoup de temps, quoi. Et là maintenant, bon, ça prend toujours beaucoup de temps, mais on fait tout ça à partir de son ordinateur, quoi. La seule grosse difficulté réelle est d'avoir la patience et alors avoir l'esprit tordu pour aller chercher des trucs là où ils sont, parce que parfois c'est pas évident, hein. Si on tape, je sais pas moi, par exemple certains quartiers de Londres, par exemple on voit des photos de Londres, je sais pas moi, en 1930, alors j'ai tapé Western London 1930, j'ai eu quelques photos, c'était plutôt des cartes postales et j'étais là, c'était quand même
pas,
pas top. Et alors, en cherchant un tout petit peu d'où vient la photo et en remontant les pistes comme ça, on arrive sur des groupes de gens qui sont fans du patrimoine, des trucs comme ça. Alors parfois, il faut s'inscrire pour rentrer dans le groupe et pour avoir des documents beaucoup plus pointus, quoi. C'est un sérieux boulot, hein. Mais c'est très chouette, j'adore ça.
Alors, les fantômes de Nightgate sont terminés. Est-ce que Choc, on va quand même le revoir ? On en parle,
oui,
non ?
Oui, on en parle. Mais alors, hors trilogie, cette trilogie ici, c'est un petit peu la biographie du début de la carrière de Choc, en fait. Hein. Oh. Donc, on va...
Il y a encore de l'avenir pour lui.
Oh, il suffit de voir jusque quand il fait chier, il fait tendu. Hein. il les ennuie jusque dans les années 90, hein, je crois. Donc,
bon. Il y a encore du pain sur la planche.
Oui, ouais. Bon, et puis il y a toutes les pistes que Stéphane a ouvertes. Il y a moyen de faire quelque chose de très très chouette. Et pour le moment, on y pense, hein, mais ça va prendre encore. Avant de dire, enfin, il y a une idée, mais je ne dévoilerai pas, mais avant qu'on puisse dire que ce soit exploitable et qu'on travaille dessus, ça va encore prendre entre 6 et 8 mois, quoi, maintenant, de travail de scénarisation. Et après ça, le dessin, quoi.
Alors, une petite question qui n'a pas grand-chose à voir avec Choc, c'est, en tant que dessinateur, quand on fait construire à Xabia, dans le sud de l'Espagne, est-ce qu'on a plus facile pour exprimer la maison de ses rêves à son architecte ?
Ah, j'ai fait un croquis, j'ai dessiné ma maison j'ai demandé à une amie espagnole qui habite Ravea, en fait c'est notre témoin de mariage, donc je lui dis, tu dois bien connaître un bon architecte ici à Ravea. Elle m'a dit, ben oui, Vicente Castello, on a été voir Vicente Castello. Je lui ai montré ce que je voulais, je lui ai dit que j'avais un budget quand même très très limité. Donc il m'a fait vraiment un plan topissime à partir de mes dessins. Et puis voilà, quoi, c'est pas très compliqué. Moi, j'ai des facilités. C'est pas la première fois que je le fais. J'avais déjà retapé une autre maison dans le sud de l'Espagne. Et même chose, j'avais dessiné ma piscine et ça. J'adore ça. J'aurais pu faire architecte, ça m'aurait bien plu.
Eric Macdon, un grand merci. Mais, et bonne continuation à Choc, alors.
Mais écoutez, merci beaucoup.